journal, Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. La forêt brûle et la biodiversité se meurt. Dans le Var, mais aussi en Italie ou en Grèce, des feux d'une rare intensité se sont multipliés en Europe cet été, réduisant en cendres paysages et espèces de Méditerranée. À suivre également la guerre des images des talibans en Afghanistan, qui font régner la terreur auprès de la population en brandissant des armes pour la plupart américaines. Éric Biegala nous l'expliquera. Quand le Covid-19 met à l'arrêt l'industrie automobile après les pénuries de certaines pièces, c'est un cluster en Malaisie qui oblige l'usine PSA de Rennes à fermer ses portes. Et puis nous retomberons en enfance à la fin du journal avec un record du monde de saute-mouton à battre dans le Bas-Rhin.
Et puis dans un gros quart d'heure, le premier invité de la matinale, Patrice Franceschi, il publie un roman, S'il n'en reste qu'une, l'histoire d'une journaliste australienne qui va enquêter sur le destin tragique de deux combattantes kurdes enterrées dans la même tombe.
France Inter.
Plus de 7000 hectares de forêt partis en fumée dans le Var.
Au cinquième jour de cet incendie dévastateur, le plus grave dans le pays depuis 20 ans, le feu n'est toujours pas fixé. Ce matin, deux personnes sont mortes avant-hier et cette nuit, 1200 pompiers sont restés sur le qui-vive. Les forêts qui s'embrasent aussi cet été en Grèce, en Italie, en Turquie, en Algérie, au grand dam des scientifiques et ONG, notamment le WWF, car ces feux auront des conséquences à long terme sur la biodiversité méditerranéenne. Célia Kiré.
Des centaines d'espèces ont déjà été touchées par ces feux dans des milieux typiques de la Méditerranée. Selon les premières remontées du WWF, le Fonds mondial pour la nature, or avec le réchauffement, des incendies peuvent se produire à nouveau les prochains étés. Certains dégâts risquent donc d'être irréversibles, selon Pierre Canet.
Je pense par exemple en Turquie, au lynx du désert, ou à la chèvre Égagre, ou encore le cerf Elaf en Grèce, des arbres centenaires aussi en Italie. Et derrière ces icônes, ces espèces menacées d'extinction, on a, comme la tortue Hermann dans le Var, des écosystèmes vitaux qui sont touchés, avec beaucoup de plantes, d'arbres, d'insectes qui contribuent du coup à toute une biodiversité locale. Le problème, c'est qu'avec une accentuation du dérèglement climatique, malheureusement, ces écosystèmes seront sous une pression grandissante de nouveaux feux et de nouveaux incendies. Nous avons donc malheureusement peu de chances de retrouver, en tout cas pour des espaces qui se sont construits sur des décennies, le même niveau de biodiversité.
Dans le Var, certains scientifiques déplorent la disparition de pins à pignons, de chênes séculaires, de milliers d'insectes ou de tortues Hermann. Des plans de sauvegarde et de restauration seront nécessaires. Mais pour le WWF, ces méga-feux modifient profondément les écosystèmes. Il revient donc aux États de protéger davantage ces milieux méditerranéens en luttant contre le réchauffement climatique.
Dans le Var, où le Mistral devrait continuer à souffler aujourd'hui et ce week-end, faisant craindre aux pompiers plusieurs journées à risque.
En Afghanistan, les premières manifestations anti-talibans violemment dispersées.
Plusieurs dizaines de personnes ont défié les insurgés dans les rues de Kaboul hier, jour de l'indépendance de l'Afghanistan, face à des talibans surarmés, dans leurs mains des M4, des M16 avec lesquels ils paradent. Une image bien embarrassante pour les Américains, car ce sont eux qui ont fourni l'essentiel de ces équipements militaires à l'armée afghane, des armes tombées dans les mains des islamistes. Éric Biegala.
Durant 20 ans, les Américains ont fourni une aide militaire évaluée à quelque 83 milliards de dollars de l'équipement qui se retrouve maintenant aux mains des talibans. Prenez leur fameuse force spéciale par exemple. Les hommes portent tous le casque tactique, les lunettes de visée nocturne, le gilet balistique des forces spéciales occidentales. Quant à leur armement, c'est le fusil d'assaut américain ou la dernière version de la Kalachnikov russe. Mais le butin le plus important a été constitué lors de la prise des capitales provinciales quand les troupes régulières afghanes se sont débandées. Le blog spécialisé Orixpiencop a comptabilisé les images publiées par les talibans de leur prise de guerre entre juin et août. On y compte 2082 blindés légers transports de troupes, type Humvee, une cinquantaine de canons ou mortiers lourds, 60 chars légers, 12 chars lourds. Quant aux aéronefs, avions ou hélicos, 45 se sont réfugiés en Ouzbékistan, une poignée d'autres au Tadjikistan, mais les talibans ont mis la main sur au moins 2 avions, 24 hélicos, dont 12 américains, et 7 drones militaires. Le Pentagone a averti qu'il ne s'interdirait pas d'aller détruire tous ces armements aujourd'hui aux mains des talibans.
Éric Biegala pour France Inter. Et depuis dimanche soir, plus de 18 000 personnes ont été évacuées d'Afghanistan d'après l'OTAN. Hier soir, un troisième vol s'est posé à Paris avec 200 personnes à son bord, en grande majorité des ressortissants afghans. Les États-Unis qui s'apprêtent également à venir en aide au Liban, tout comme leur puissance ennemie, l'Iran. Le pays du cèdre, soumis au jeu de pouvoir et d'influence, est confronté à de graves pénuries de courant et de carburant. Le Parlement libanais doit se réunir aujourd'hui pour débattre des subventions à mettre en place. Leur levée la semaine dernière a donné lieu à des scènes de panique chez les Libanais. Le manque d'électricité et d'essence qui mettent à mal le fonctionnement des hôpitaux. Reportage à Beyrouth de notre correspondante, Laure Stéphan.
Le principal hôpital public de Beyrouth est privé d'électricité et ses réserves de carburant s'épuisent pour faire marcher les générateurs privés. C'est le cri d'alarme lancé hier par Firas Abiad, le directeur de l'hôpital. Les appels d'urgence des structures de santé se multiplient. Les hôpitaux sont sur la corde raide, dit le docteur Abiad.
L'électricité, c'est notre défi sur l'ultra-court terme. Sans électricité, toute l'activité s'arrête. Telle est la situation de la grande majorité des hôpitaux. Quand nous recevons du carburant, ça ne couvre les besoins d'électricité que pour un ou deux jours.
Il faut aussi gérer les pénuries de médicaments. L'hôpital public dépend de donations. Au milieu de ces difficultés, le syndicat des hôpitaux s'alarme que des médecins et des infirmiers ne puissent plus rejoindre leur lieu de travail, faute d'essence. Le personnel est en surchauffe suite au départ de Blouse Blanche vers l'étranger. Docteur Firas Abiad.
Le personnel encore présent a plus de responsabilités et plus de travail. Cela conduit à des situations de burn-out et à la grande fatigue des équipes.
Pour alléger le fardeau des hôpitaux, c'est vers eux que l'armée a redirigé des quantités de carburant saisies lors de perquisitions menées ces derniers jours. Des stocks illégaux qui participent en bonne partie aux pénuries. Beyrouth, Laure Stéphane, France Inter.
Au Burkina Faso, le bilan humain s'élève désormais à 85 morts tués lors d'une attaque djihadiste mercredi soir. Un convoi militaire a été pris pour cible dans la zone des trois frontières entre le Niger et le Mali. À son bord, une majorité de civils.
L'industrie automobile touchée de plein fouet par la pandémie.
Il y a d'abord la pénurie mondiale de semi-conducteurs depuis plus d'un an, obligeant l'usine Toyota d'Onin dans le Nord à rester fermée jusqu'au 6 septembre. Il y a maintenant l'usine PSA de Rennes qui sera à l'arrêt la semaine prochaine. Au problème d'approvisionnement s'ajoute désormais un cluster chez un sous-traitant malaisien. Maxime Deps, la crise du secteur n'est pas près d'être résolue.
En apprenant que la chaîne allait être stoppée purement et simplement pour 8 jours, Laurent Valli de la CFDT est tombé des nues.
Ouais, parce qu'on était quand même un peu rassuré par les annonces qu'on a pu avoir en comité central d'entreprise. Quand même, on estimait qu'on serait sorti de la crise en début 2022 et que le deuxième semestre 2021 devait être plus calme. Bon, là, c'est vraiment la douche froide. Effectivement, on se retrouve à l'effet inverse avec une coupure sur une semaine complète. C'est pas rien.
À l'origine, un cluster en Malaisie chez un sous-traitant de rang 2 qui empêche un autre sous-traitant en Pologne de fournir la pièce nécessaire pour assembler les 5008 et les C5 Aircross en France. Il est temps, estime ce syndicaliste, pour les constructeurs de tirer les enseignements de cette crise.
Avec la politique achat qui est développée, d'acheter systématiquement dans les pays low cost, quand même quelque part, PSA a sa responsabilité. Donc il est urgent que l'État intervienne aussi. Parce qu'au bout du bout, quand même, c'est quand même le salarié qui trinque quelque part. Le contribuable, parce que l'activité partielle, quand le salarié est mis en activité partielle, donc en chômage, c'est quand même le collectif qui paye.
La CFDT demande à la direction de compenser à 100% la perte de rémunération pour juillet et août, en attendant la finalisation d'un accord d'activité partielle de longue durée qui sera discuté la semaine prochaine.
Maxime Deps, le Covid-19, dont la quatrième vague continue de déferler sur les Antilles. 300 soignants volontaires doivent décoller cet après-midi de Paris pour venir prêter main forte aux hôpitaux de Guadeloupe et de Martinique.
Quand le nouveau chef de la gendarmerie est déjà condamné pour violence conjugale.
Cela se passe en Nouvelle-Calédonie, où un colonel nommé numéro 1 de la gendarmerie en juillet dernier a été condamné en appel au mois de mai pour violence physique et psychologique sur son épouse. Une histoire révélée par Mediapart est quelque peu embarrassante pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui déclarait au début du mois que les policiers condamnés pour violence conjugale ne devaient plus être au contact du public. C'était juste après le féminicide de Mérignac. En Nouvelle-Calédonie, où près de 20% des femmes confient être victimes de violences, les élus demandent donc le départ du commandant. Ariane Grissel.
L'épouse du colonel décrit à Mediapart plusieurs scènes de violence, comme ce jour où, dit-elle, pendant une dispute, il la bloque contre une armoire et lui tord la tête, des insultes à répétition aussi. En juin 2018, elle porte plainte, plainte qui aboutit à la condamnation en appel du militaire en mai dernier. Moins de 3 mois plus tard, celui qui était déjà commandant en second de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie en prend la tête, une promotion à laquelle rien ne faisait obstacle, selon la direction générale de la gendarmerie nationale. Elle avance la décision des juges. Ils ont estimé que les faits sont intervenus dans un contexte de séparation douloureuse, après 20 ans de relations sans violence, et ont accepté que cette condamnation ne soit pas inscrite au casier judiciaire du gendarme. L'avocat du colonel insiste de son côté sur le fait que le militaire a reconnu deux épisodes de violence, admis leur gravité, demandé pardon à son épouse à l'audience et rendu compte de chaque étape de la procédure à sa hiérarchie.
Ariane Grissel, rappelons que la mise en retrait d'un gendarme vis-à-vis du public doit être actée par un conseil de discipline.
Il s'apprête à faire 20 000 sauts en 24 heures.
Et pas n'importe quel type de saut, du saut de mouton. Oui, oui. Deux jeunes Alsaciens de Wissembourg se sont mis en tête de battre le record du monde de la discipline des cours de récré. Un challenge pour la bonne cause, ils veulent récolter des fonds pour la maison d'enfants du village de Klimbach. Un record du monde qui demande un peu d'entraînement. Antoine Ballandra.
Adrien et Yann ont enfilé la tenue qu'ils ont créée spécialement pour le saut de mouton. Basket, genouillère et surtout des gants pour éviter de blesser le coéquipier.
C'est ça, ouais, bon, on abîme un peu le dos du partenaire quand on pose les mains dessus à force.
Il faut de l'abnégation un petit peu.
Un petit peu, ouais. Je sais pas ce qu'il faut, mais il faut quelque chose.
Les deux étudiants se mettent ensuite à sauter au-dessus du dos de leur partenaire.
Ça, c'est le rythme habituel, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est ça. Normalement, ça fait à peu près 3,6 secondes pour un saut.
Le saut de mouton est donc un sport usant, sachez-le. Surtout quand il faut faire 1000 sauts par heure pour battre le record du monde. Mais rien n'est impossible pour ces jeunes. Adrien, par exemple, est étudiant en sport.
Il y a une petite base, il y a une petite base. Mais spécialiste saut de mouton quand même. Hein.
Je crois qu'on a trouvé de quoi exploiter notre potentiel au maximum.
Un potentiel utilisé pour une bonne cause. Les bénéfices de la tentative de record du monde seront reversés à la maison des enfants de Klimbach. Mais en fait...
Et pourquoi le saut de mouton alors?
Adrien?
J'ai pas non plus la réponse, mais c'est une idée qui date d'il y a un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai mis du temps à trouver quelqu'un, donc je suis content et on s'est lancé sur le 24 heures.
24 heures avec 20 heures de saut, 4 heures de repos possible et des ravitaillements réguliers. Tout cela sous l'œil de caméras et de témoins chargés de valider ou non un éventuel record du monde.
Antoine Ballandra, les 24 heures de saut de mouton auront lieu donc à Wissembourg. Performance retransmise sur la plateforme Twitch en live. Ouais. Un mot de foot ce soir avec le PSG qui affronte le Brest, pardonnez-moi. bon, ça sera un match sans la méga star Lionel Messi. Il était pourtant très attendu en Bretagne.
Il n'y aura même pas Neymar. Donc, Allez, c'est quand même du foot et c'est sympa. 7h42. Merci, Julie Paco.